Y ahora como se ve, pues es de una serie de forma con la lección pour pouvoir le calendrier, mais choisi pour arriver au fait de ce que Père Jean a passé. Et chacune de ces remarques, c'est une étude pour elle-même. C'est-à-dire vous allez les découvrir maintenant assez rapidement, et vous organiserez vos notes en un sujet pour lui-même. Bien entendu, aujourd'hui, je vais les organiser entre elles, mais en réalité, ce sont des études spécifiques chacune pour elle-même. Alors, d'abord, une première définition de ce que c'est un calendrier traditionnel, c'est le fait de pouvoir, dans le problème du rapport entre l'homme et le temps, de pouvoir ramener le temps à l'échelle humaine. C'est-à-dire d'installer une relation à l'échelle humaine entre la personne humaine et le temps. C'est-à-dire lorsque la conscience humaine découvre le temps, qui est une des deux dimensions de l'existence de l'homme, puisque l'homme existe dans un monde qui se définit par quelles sont les deux dimensions, l'espace et le temps, et le problème de l'histoire, le problème de la géographie, sont deux problèmes extrêmement importants pour la société humaine. Tous les problèmes que nous avons à résoudre dans la société humaine sont toujours des problèmes de géographie et d'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé qui explique l'identité de chacun, et donc la nature des relations entre chacun et chacun, en particulier les conflits, puisque malheureusement l'histoire, c'est en général l'histoire des conflits, on aura à apprendre pourquoi aussi, et d'autre part, quelles sont les limites de l'existence de chacun. Les limites de chacun, c'est la géographie. L'identité, c'est l'histoire. C'est clair. Enfin, vous voyez que, en particulier, il y a ce problème de la relation entre la personne humaine et le temps. La conscience humaine se découvre existant dans un monde qui lui impose deux problèmes, l'espace et le temps. Alors prenons le problème du temps. Il y a une incommensurabilité entre si j'emploie des mots qui ne sont pas clairs, vous m'arrêtez. Il y a une première prise de conscience c'est dramatique, si vous voulez, lorsque la conscience humaine découvre l'incommensurabilité entre son rythme d'existence et le temps total. Le temps total, ça ressemble à l'éternité. Le temps, c'est pas l'éternité, mais on veut dire, on découvre un temps, qu'on est inséré dans un temps qui, semble-t-il, n'a jamais commencé, mais s'il a commencé il y a si longtemps, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, c'est l'immensité. Et puis, on se découvre comme existant à l'intérieur de limites très étroites de temps entre la naissance et la mort. Il y a un rythme d'existence individuelle qui est écrasé par l'immensité du temps. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez, c'est une des premières découvertes de la conscience humaine lorsqu'elle est aux prises avec cette découverte, qu'elle est en relation avec le temps, que sa manière d'exister est avec le temps. Il y a une espèce de transcendance absolue du temps par rapport à la personne humaine. Premièrement, l'homme se sent écrasé par l'infinité du temps. C'est la première idée. Alors, le projet de ce que nous allons appeler un calendrier traditionnel, c'est-à-dire de vivre l'existence d'une année à l'échelle humaine, suivant la tradition juive, le temps minimum, enfin le temps optimum, si vous voulez, normal de l'existence humaine, c'est 70 ans. Nous verrons les sous, nous verrons pourquoi. Si on vit plus, tant mieux, c'est plus. Si on vit moins, c'est dommage. Mais c'est grosso modo, nous avons une existence, en tout cas dans la période de l'évolution de l'histoire où nous nous trouvons, la durée moyenne d'une existence humaine, selon la tradition biblique, c'est 70 ans. Les progrès de l'hygiène contemporaine ont fait qu'on s'approche un peu de cette moyenne. En réalité, comme vous le savez, la moyenne est beaucoup plus basse, étant donné le niveau d'existence, et ça dépend des sociétés. Enfin, je referme cette parenthèse. Et donc, je prends conscience que ma destinée, mon histoire individuelle est insérée dans une échelle de temps très courte, 70 ans, dans un chiffre symbolique, si vous voulez. T'en prie, dis-leur de fermer la porte. Mais je découvre une dimension du temps qui est considérablement infini par rapport à moi. Parce que c'est que je suis un agnostique en France. français qui m'échappe en fait, une sorte de décalage absolument monstrueux. Alors, en général, le projet d'un calendrier traditionnel, c'est de faire vivre, de ramener à l'échelle humaine dans l'espace d'une année, qui est, disons, la mesure du temps humain, la signification totale, globale, de toute l'histoire de l'humanité. C'est la définition commune à tous les calendriers traditionnels. Bien entendu, la tradition juive est spécifique, la tradition, je dirais plutôt, fais bien attention quand je dis juif, biblique ou hébraïque, c'est pas pour rien, mon frère vous familiarisera l'avant avec la différence. Disons, les critères du calendrier traditionnel hébraïque, donc juif, sont des critères très précis, très spécifiques, ceux d'entre vous qui étaient là pendant les premières fêtes, vous rappelez, nous avons découvert un certain nombre de principes, de l'intuition biblique du temps n'est pas la même que l'intuition du temps naturel, par exemple. Je reviendrai peut-être sur ce point ici en passant. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, que la tradition hébraïque a les mêmes principes que tout autre calendrier traditionnel. Nous avons d'abord une définition très générale. Le projet d'une tradition, c'est de ramener cet absolu de l'infini du temps qui est inhumain, qui dépasse la conscience existentielle de l'homme à l'échelle humaine. Donc, il y a, suivant les traditions, il y a différents critères de base. Et nous avons ce choix à prendre des critères de la tradition hébraïque. Est-ce que c'est clair dans ce premier principe? C'est la première. Quelle est la définition du projet de calendrier traditionnel? C'est de faire que la relation au temps soit à l'échelle humaine. Et à partir de ce moment-là, le temps perd sa caractéristique d'homogénéité qu'il a, par exemple, dans la culture contemporaine. Je veux dire que s'il y a une civilisation qui est inapte à comprendre ce que c'est qu'un calendrier traditionnel, c'est bien la civilisation occidentale ou contemporaine. Encore dans les campagnes, ou si vous voulez, même dans les villages, dans les villes, où on a gardé une relation à une tradition qui a été celle de l'Europe, celle de la France, puisque nous parlons en français, de culture française, plus ou moins confusément, plus ou moins lucidement. En fin de compte, en réalité, l'homme, surtout après le 18e siècle, après le temps du positivisme, l'homme a perdu la notion que le temps est une qualité. Et le temps auquel nous sommes reliés dans la culture occidentale contemporaine est un sens uniforme, homogène et formellement identique à lui-même. Et pendant c'est un temps de monotonie et d'ennui. Ça nous expliquera d'ailleurs pourquoi la recherche de ce problème de passer le temps. Je vous envoie des expressions qui vont. Oui, vous mettre en évidence le fait que même le langage est déjà imprégné de cette espèce d'assassinat de l'identité, du temps et de la qualité des choses. Par exemple, tuer le temps. Mais surtout, passer le temps. Ou bien, surtout à quoi je pense. C'est le fait que le temps est une. Oui, voilà ce que je voulais dire. Il y a un problème qui est apparu dans la civilisation occidentale et qui est du point de vue de la sagesse universelle, des grandes sagesses de l'Antiquité ou même des sagesses de l'Antiquité qui continuent à exister dans certaines civilisations que l'Occident ignore plus ou moins. Et je ne pense pas seulement à l'Orient, mais encore une fois, dans les campagnes de l'Europe ou de l'Amérique, il y a encore la relation à un calendrier traditionnel, eh bien, c'est le problème des loisirs. Le fait qu'on ne sait pas des loisirs, qu'il y ait un problème de loisirs, c'est le signe que l'homme a perdu le sens de de son existence. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est devenu d'ailleurs une industrie, comme vous le savez, à inventer comment remplir le temps. Comment passer le temps. Mais tout ceci est à l'intérieur d'un principe très important, c'est que le temps de la conscience occidentale est un temps uniforme. Je vais essayer de m'expliquer pour l'illustrer tout de suite. on a quand même, inévitablement, même si on habite la ville occidentale, on sait qu'il y a des saisons. Et dans le temps de la nature, je n'ai pas dit encore le temps naturel, mais dans le temps de la nature, il y a des saisons. Et un jour de janvier, un jour de juin, un jour de novembre, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, la conscience civilisée a une perception du temps qui manque homogène. Tout le monde comprend le mot homogène. Ça veut dire qu'il est le même partout et égal à lui-même, comme une sorte de forme, lui. Un matin de janvier, c'est le temps de l'horloge. Un matin de janvier, c'est la même chose que le temps de l'horloge un matin de décembre. De décembre et janvier, c'est pas si loin, mais enfin, je veux dire, vous avez compris. Et alors que la conscience traditionnelle a connu une relation au temps qui était qualitative et non pas quantitative. Je vais vous prendre un exemple, c'est celui de la musique. Et vous verrez à quel point nous sommes coupés des réalités qualitatives du monde. Et déjà nous abordons un problème général du montant. C'est le caractère inévitablement artificiel d'une civilisation lorsque elle est coupée de ce que j'appelle déjà avec un mot non encore défini, mais d'une tradition, premièrement d'une tradition du temps. Je vous donne un exemple. On a gardé, plus ou moins confusément, le sentiment qu'il y a des chants qui se chantent plutôt le matin, d'autres plutôt le soir. Vous voyez ce que je dis? Et, mais on a perdu la science de cela. Il y a encore des civilisations traditionnelles où on ressent comme une espèce d'hérésie de goût. Mais c'est plus que des résidus de blasphème. Le fait de chanter le matin un chant du soir, ou le fait de chanter le soir un chant du matin, le fait de chanter au printemps un chant de l'automne, mais cette idée même qu'il y a des chants du matin, des chants du soir, des chants du printemps, des chants de l'automne, vous comprenez ce que je dis? Si certains d'entre vous ont eu l'expérience du mouvement de jeunesse, vous avez dû remarquer, je prends un exemple, par exemple, la cérémonie du feu de camp. Oui. Alors, on sent tout de suite qu'il y a un certain type de mélodies qui sont compatibles avec ce genre de réunion ou d'expérience, et d'autres pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, et maintenant, les civilisations traditionnelles, chaque moment du temps a sa qualité propre et a donc sa liturgie propre, son rythme propre. Par exemple, premièrement, au niveau de la musique. Est-ce que c'est clair? Pour vous donner un exemple plus général, imaginez que nous soyons au jour de Kippour. Bon, et puis que quelqu'un connaît un air qu'on a l'habitude de chanter à Pessah. Alors imaginez quelqu'un chantant le Kaddish de Pessah le jour de Kippour. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Donc, mais ça, c'est resté peut-être encore dans certaines consciences au niveau des rites les plus officialisés. Mais il faut savoir qu'un calendrier traditionnel, c'était vivre tout le temps d'après la case d'identité qualitative du temps. Et quand on vit, c'est clair, on vit le matin, l'existence du matin, l'après-midi, l'existence de l'après-midi, le soir, l'existence du soir. Mais chaque jour a sa qualité, chaque jour a son identité. Et vous voyez, à partir de l'année comme cadre général, les différents misgarot, les différents cercles, l'année, le mois, la semaine, le jour. Et donc, il y a une relation au temps qui est récupérée qualitativement à l'échelle humaine. Alors on vit, et c'est pas qu'on passe le temps. Ça y est, c'est plus clair? Alors, à quel point, par exemple, aujourd'hui, un jour comme le dimanche, dans la civilisation occidentale, originellement, dans la tradition occidentale, et très rapidement, c'est devenu une tradition chrétienne, mais enfin, c'est celle de l'Occident, le dimanche a sa qualité dans les jours de la semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu un jour vide, un jour où on ne travaille pas? Et oui, comme si le jour du lundi, du mardi, du mercredi, c'est la même chose que le jeudi, le vendredi, le dimanche, réciproquement. Et puis, de façon conventionnelle, artificielle, on va installer, si vous voulez, alors voilà, à quoi on arrive tout de suite, au grand drame de la civilisation contemporaine, qui est l'ennui, dans la relation au temps. Et vous verrez à quel point c'est vraiment un problème de civilisation. C'est relié, d'ailleurs, au problème des loisirs. Bien. Alors ceci, c'était simplement pour illustrer le premier principe. C'est-à-dire, si vous initiez un jour, si vous arrivez à vous initier un jour à la bien que certains d'entre nous possèdent de famille, ou encore les parents, en tout cas sûrement les grands-parents, vivaient comme cela. À la musique orientale, eh bien, vous saurez cela qu'il y a des modes musicaux. Du matin avant le coucher du soleil, d'autres, avant le lever du soleil, d'autres au moment du lever du soleil, on appelle ça les bourrées, je sais pas. Qu'est-ce qui parle encore à l'homme? Oui, tu vois pourquoi il peut s'agir. Et, par exemple, vous avez tué de Constantine. Bon, vous avez entendu parler de la musique andalouse? Bon, et vous savez peut-être qu'il y a 12 modes dans la musique andalouse. Vous n'avez pas entendu ces choses-là. Eh bien, pourquoi 12 modes? Tout simplement parce qu'il y a 12 heures dans la journée. Et chaque mode correspond à une heure de la journée. Vous avez vu jusqu'où peut aller la précision. Bon, un occidental a été complètement coupé, mais c'est récent, après le XVIIe siècle. Couper le ça dans la tradition occidentale. En particulier sur ce point, on n'a plus aucune idée de ce que représente un calendrier traditionnel. Pourquoi tel jour on vit comme ça, tel autre jour on vit autrement. Bon, vous avez découvert cette première notion?
Oui.
Ça se fait avec une question.
Est-ce qu'on n'a plus la conscience de cela ou bien c'est simplement est-ce que on est quand même obligé de vivre selon le. Selon le rythme naturel des choses. Comme par exemple, le gars qui veut faire des loisirs, bon, on était presque obligé de venir au bord de mer parce que c'était beau. Dans l'hiver, il va faire du ski. C'est-à-dire, il est accroché même s'il le veut, même s'il veut se détacher. Il est quand même accroché à un rythme naturel.
Je n'ai pas très bien compris la question. Pourquoi il s'accroche? Non, je vais donner.
Tout à l'heure, la civilisation occidentale cherche à rendre homogène le temps. C'est-à-dire même si
c'est pas qu'elle cherche. Voilà ce qui lui est arrivé. Le temps est homogène. Je vais donner un exemple. Ça va peut-être vous faire sourire. Un des problèmes des directeurs d'école, c'est de savoir quel cours mettre le matin, quel cours mettre l'après-midi. Et c'est un problème très compliqué. Parce que ça va jusque-là. La qualité de l'heure entre 9 et 10 et la qualité de l'heure entre 4 et 5 n'est pas égale. Alors on ne peut pas dire ça c'est une heure d'étude, ça c'est une heure d'étude. Il y a une qualité du temps. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Une qualité du temps à travers l'année. Les jours ne sont pas les mêmes. Les heures ne sont pas les mêmes. Les années ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Or, voilà ce que je veux vous faire. Nous avons une catégorie abstraite du temps de l'horloge. Mais c'est une catégorie fictive, conventionnelle. Le temps réel que personne appelle la vie, la durée. Dans un contexte autrement, le temps et la durée. Par exemple, une heure où je suis intéressé passe beaucoup plus vite qu'une heure de mon nuit. Donc la durée de la même, du même temps d'horloge n'est pas la même. Où est-ce que je dis? Eh bien, voilà, c'est ça qui est le problème en Occident. En Occident, la notion de cette dialectique, le temps du soleil, le temps de la pluie, etc., finalement, est devenu industrialisé, commercialisé. Toute autre notion qui est apparue, l'industrie des vacances. Moi, quand j'avais votre âge, ça n'existait pas ailleurs. Je le disais dans la société, dans l'économie de la société, ça n'existait pas, les vacances. Et je me rappelle encore l'expérience de la notion de vacances quand on était à l'école, quand il y avait les vacances scolaires, c'était le temps où on était dans la famille, où on vivait dans la famille. Alors que le temps de non-vacances, oui, c'est un concept tout à fait autre, une expérience tout à fait autre, c'était le temps où on vivait à l'école. Bien sûr, on dormait à la famille, on mangeait à la famille, on vivait à l'école. Mais le temps des vacances, c'était le temps où on vivait dans la famille. Et, alors qu'aujourd'hui, les vacances, c'est une occupation pour elle-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les vacances fatiguent plus que le travail dans la civilisation contemporaine. Les gens se fatiguent pour rentrer dans cette espèce de système qu'il faut occuper le temps des vacances. Bon, il y a des dimensions psychosociales qui jouent, d'ostentation, je ne sais pas comment dire, il faut pouvoir dire j'étais en vacances là, ça dépend des modes, et c'est pas tellement au bord de la mer qu'on va, c'est à quelle plage, ou à quelle autre plage, etc. Bon, tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Voilà. Mais on va simplifier un peu tout cela. Et ce que je voulais d'abord mettre en évidence, c'est ça, la notion d'un calendrier traditionnel a été perdue dans la situation occidentale. Parentalement, je dis, ça reste dans beaucoup de familles encore attachées à leur tradition, en général paysanne. En général, chez les pays. Ceux qui ont gardé un contact avec la nature de la terre. Et bien entendu, alors ceci dit, il y a des rites naturels qui sont tellement massifs qu'on ne peut pas ne pas les percevoir. Mais je prends un peu l'exemple du folklore musical. Et vous avez dû remarquer cela, qu'il y a certains chants qui ont gardé une allure traditionnelle. Et d'autres pas. Qu'est-ce qui fait que ce chant est traditionnel de Kéros? Disons qu'il y a des rythmes même musicaux qui correspondent à une relation au temps. Il est bien, je pense que vous avez dû apprendre ça dans vos études, que la mélodie est une certaine manière de composer le temps du son. Là, c'est une vibration, une certaine manière de... Bon, et il faudrait qu'on fasse ça. La civilisation occidentale est une civilisation abstraite, conventionnelle, mais en particulier, elle a perdu le diagnostic de l'ordre de la qualité. Vous verrez ça d'ailleurs dans l'utilisation des langues. Les langues comme par exemple le français, l'ancien français est encore une langue très concrète, très riche de nuances concrètes. Le français moderne est devenu une langue très abstraite et où on ne perçoit plus les nuances dans l'ordre de la qualité, alors qu'on a une précision très grande des nuances dans l'ordre de la quantité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dès que vous parlez des choses spirituelles, alors tout vous paraîtra synonyme dans les mots. Alors que dans l'ancien français, chaque terme parlant d'une qualité spirituelle avait une précision absolue. L'esprit, l'âme, c'est pas la même chose. Or, dans le français moderne, l'âme, l'esprit, on voit plus la différence. Oui, les langues anciennes, traditionnelles, étaient des langues concrètes. Par exemple, dans certains dialectes arabes, il y a 36 mots pour dire un chameau. Si on veut dire un chameau gris, il y a un mot pour ça. Un chameau gris accroupi, il y a un mot pour ça. C'est-à-dire que la langue est concrète. Et il n'y a pas de mot pour dire chameau en général. Hein? Mais la langue est concrète. Alors que la langue moderne civilisée occidentale, la même langue qui avant exprimait des choses concrètes avec les mêmes mots, est devenue abstraite, uniforme, homogène. Vous comprenez le dire quand on commencera à avoir suffisamment de mots, qu'on puisse commencer à traduire certains textes, vous verrez à quel point on n'arrive plus à trouver l'équivalent français, parce qu'en français tout devient synonyme. Vous verrez même que dès qu'on commencera à la recherche de la définition du premier terme qu'on aura utilisé, qui désigne des choses spirituelles, on n'arrive plus à traduire, ni analyser, ni comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le français ne savait pas dire ces choses-là, mais ça s'est perdu. C'est vrai? Bien. Alors, c'est fini sur cette première remarque. Une deuxième introduction, assez rapide, je vois que le temps galope. Mais quand même, je vous prêter de la de montrer, c'est maintenant d'aborder comme un autre principe qui s'est spécifique de la tradition hébraïque pour elle-même. Je vais m'appuyer sur une analyse d'un philosophe juif allemand qui est mort dans les années 20, enfin il avait fait entre 1980 et 1920 à peu près, dont probablement vous aurez entendu parler encore dans le courant d'année, qui s'appelle Franz. Son nom de quelque chose? Pas encore. Bon, Franz Rosenzweig. Vous dites aussi, je ne suis pas du tout de culture allemande, mais il y a mille raisons pour cela. Bien que je m'appelle Ashkenazi, je ne sais pas si vous savez qu'en hébreu ça veut dire allemand. C'est-à-dire en français, je devrais l'appeler mesure allemand, j'imagine. Mais ça a été un grand moment de la pensée en Allemagne. Franz Rosenzweig. Je vais raconter très très rapidement son histoire. Il faisait partie, à cette époque, c'était l'époque de la grande assimilation du judaïsme allemand à la culture allemande, et qui a d'ailleurs et une des raisons profondes de l'antisémitisme éclairé par la suite, c'est la manière dont les Juifs allemands se sont assimilés à l'Allemagne, qui a été une des causes, par réaction du nazisme. Et c'est parti de ces familles où les jeunes gens étaient très brillants, imaginez l'époque 1900, la belle époque, comme ça qu'on l'appelait, les petites moustaches, etc. Et puis, c'était un étudiant en philosophie, et puis un des moyens d'entrer dans la société occidentale pour les Juifs sortant des ghettos et s'assimilant, c'était de devenir chrétien. Par exemple, ça a été le cas de Bergson. Je ne voudrais pas vous ouvrir une parenthèse trop longue sur Bergson, on le retrouvera un autre jour. C'est un très grand philosophe, Bergson est probablement un des rares génies de la philosophie, un des grands génies de la philosophie. Il y en a quand même un certain nombre en France, je dis. Et Bergson n'a pas fini par se convertir officiellement au christianisme, enfin c'est tout comme, il est entré dans la société chrétienne pour pouvoir être accepté dans la société française. Il s'est pas converti parce qu'il avait l'intention de le faire au moment des persécutions nazies et il a eu une réaction de courtoisie française. Et on ne fait pas ça à une communauté persécutée de la quitter officiellement au moment où elle est persécutée. Mais sa réaction qui a fait qu'il ne s'est pas converti officiellement n'est pas une réaction de juif mais de français. Est-ce que vous comprenez la différence? De courtoisie française. Mais en fait, il est vraiment rentré dans la société chrétienne. En particulier, il a eu un disciple très ingrat d'ailleurs par rapport à Bergson, mais très connu, qui est le père Théard de Chardin, vous avez entendu parler. Et c'est un des grands moments de la pensée française. Et puis, c'est quelque chose d'analogue qui se passe pour Rosenzweig, jeune homme. Il avait un ami qui s'appelait Chertok, son ami, lui, très rapidement est devenu chrétien. Et lui, en devenant chrétien, a découvert le judaïsme. Et donc il n'est pas devenu chrétien, il est revenu au judaïsme. Il a eu énormément de malheur, il a été paralysé assez rapidement, il n'a pas vécu très longtemps, et bien que paralysé, il a écrit une œuvre d'une grande beauté littéraire allemande, paraît-il. Et en particulier, un des foyers de sa pensée, c'était de réfléchir sur le pont possible entre la pensée universelle en dehors du judaïsme et la pensée juive. Bon, vous entendrez parler de Franz Rosenzweig, il faut connaître en tout cas ce nom. Et en particulier, ce que je vais vous citer maintenant, c'est une analyse qui se trouve dans un de ses livres principaux,
qui s'appelle « L'étoile
de la présence ». De la relation entre la pensée universelle en dehors du judaïsme et la pensée juive, vous allez avoir un cours systématique une fois par semaine là-dessus. Et en général, dans l'année, je me passais beaucoup plus sur l'enseignement de Judas Lévi, qui était un grand penseur du Moyen-Âge, qui a posé ce problème. Enfin là, je vais utiliser une analyse de Franz Rosenzweig, un peu à ma manière, mais l'essentiel vient de Franz Rosenzweig. Qu'est-ce que ça veut dire rédemption? Non, pas du tout. Ne me laissez jamais employer un mot que vous connaîtrez pas, quelle que soit la langue.
La résurrection?
Non. Donnez-moi un équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, mais donnez-moi un équivalent. Enfin, il n'y a jamais d'équivalent pour rien, mais donnez-moi un équivalent.
Le rachat.
Le rachat, c'est un peu plus proche. Quand il y a une faute, la rédemption de la faute, c'est le rachat.
La réhabilitation.
C'est pas mal aussi, ça va dans le même temps. Donc, c'est trop général. Très bien. Très bien. C'est le salut. Vous allez apprendre tout de suite en français. Le verbe, c'est rédimer. Et le substantif, c'est rédemption. Bon. Plus tard, vous allez apprendre les correspondances en hébreu. Le grand problème, c'est que lorsque l'homme prend conscience qu'il a à être sauvé de quelque chose, que sa destinée est tragique, dramatique, tragique, vous voyez la différence de ce terme par la suite, il n'est exigeant du salut, d'être sauvé. On a confusément la découverte, l'expérience que, au fond, Il faut être sauvé. De quoi? Je donne moi déjà pour tout ça. En vrai. Est-ce que vous avez compris de quelle expérience je parle? La recherche d'un salut. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'exigence spirituelle? C'est d'abord la découverte confusément qu'il y a à être sauvé de quelque chose. Mais de quoi? Qu'est-ce que vous répondriez spontanément?
Péché.
Qui a dit péché? Stop.
Sauver une femme?
Non, non, qui avait très bien dit de la mort. Stop. Quoi encore?
Sauver une seule faiblesse.
Hein?
Sauver une seule faiblesse.
Oui, très bien. Tout ça, ça fait partie du problème de la rédemption. La conscience humaine, finalement, prend conscience que dans le monde où elle existe, elle est sous au pire, il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. Et alors, il y a une exigence d'être sauvé de ça. Chacun va exprimer la dominance de ceux qui...